Et ceux qui vont débattre, je vous les présente. Guillaume Aurignac, cinéaste et critique de cinéma. Vous êtes un petit peu souffrant, alors vous restez bien au chaud à la maison, mais on a de la chance. Vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume. Philippe Azoury qui est ici avec moi en plateau, critique et auteur.
Bonjour Marie, bonjour Guillaume.
Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Alors on commence avec ce retour en force de Kiyoshi Kurosawa. 4 ans après Le Vénéneux, Les Amants Sacrifiés, Lion d'Or de la mise en scène à la Mostra de Venise, le réalisateur japonais est à l'affiche en ce moment avec 2 films. Chime, un court-métrage sorti la semaine dernière, et Cloud, son nouveau long qui sort aujourd'hui. Et c'est le Kurosawa maître du cauchemar et de l'épouvante qui revient. Cloud est inspiré d'un fait divers, l'histoire d'un jeune homme qui choisit de gagner sa vie en vendant des objets en ligne et qui va se retrouver au cœur d'une traque, d'abord numérique et puis bien réelle et très sanglante. Ce n'est pas la première fois que Kiyoshi Kurosawa pointe du doigt la violence tapie derrière nos écrans. Certains se souviennent du terrifiant Cairo sorti en 2001. On commence avec un avis rapide, et c'est à vous, Guillaume Aurignac.
Ben, pour moi, c'est un peu une déception, enfin, c'est même une assez grande déception, parce que ça commence vraiment comme un film de Tourneur, Jacques Tourneur, et ça finit un tuto YouTube de rangement de carton, très prosaïque, et on l'a beaucoup perdu au change.
Philippe.
Ça fait beaucoup rire. Je suis comme Guillaume, partagé, d'autant plus divisé que j'ai aussi vu Chaim dans la foulée, et qu'il est... Il est assez intéressant de mettre les deux films en vis-à-vis. L'un est trop court et mériterait d'être déplié. Il est insatisfaisant pour ça. Et l'autre est insatisfaisant parce qu'il se délite en seconde partie. Malgré tout, c'est quand même un film... Les deux films, ensemble, sont intéressants à voir pour voir où en est aujourd'hui Kurosawa et où on en est, nous, aujourd'hui, avec Kurosawa, 25 ans après Kyur, Charisma, qui étaient ces grands films qu'on avait découverts en 2000.
Allez, on écoute un petit peu la bande-annonce de Cloud, qui est évidemment en japonais, non surtitré.
工場を辞めた。本気なの?計画があるんだ。生活を変えるお金だってもっと使えるようになる。その時は私仕事辞めていい?いいよ。ただ思いつきと直感だけでやってらっしゃる。そういう仕事ですから。
Cloud de Kiyoshi Kurosawa en salle ce jour aujourd'hui. Guillaume Aurignac, ça commence plutôt bien, disiez-vous.
Oui, ça commence plutôt bien et c'est vrai que ça ressemble à Chime, donc le court-métrage qui est sorti la semaine dernière. C'est-à-dire que ça regarde exactement de la même manière la société contemporaine et ça la regarde de manière totalement fataliste. En observant comment les désirs, les tentatives de réussite individuelle, en fait, sont des coups de poignard qui sont donnés dans le tissu social, dans les relations humaines entre les gens, et qu'en fait, ça accouche et même ça amplifie la part monstrueuse des hommes jusqu'à laisser libre cours à leur pulsion meurtrière. Alors le problème de Claude, c'est qu'il choisit un traitement complètement réaliste de cette affaire-là. Complètement réaliste parce que je crois que c'est inspiré d'un fait divers.
Oui, tout à fait.
Quelqu'un qui est un revendeur sur Internet d'objets qu'il achète et qu'il revend pour faire des affaires et qui va finalement se mettre à dos ses clients. Mais alors se les mettre à dos assez violemment. Ça démarre très bien, c'est ce que je disais au début, parce que en fait ça commence. Il joue à fond de ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire filmer des plans vides avec des silences. Et c'est probablement, enfin, c'est de telle manière que le spectateur remplit ses plans constamment et il les remplit de sa propre angoisse. Ce qui bien qu'à la fin, il arrive à filmer pendant toute cette première partie où on ne sait pas trop ce qui se passe exactement. On voit juste scruter, observer ce personnage principal qui vend et revend des marchandises. On voit que progressivement, son quotidien est hanté par une sorte d'angoisse, par des plans vides, par des silences d'un seul coup qui se font, des ombres qui passent, sans qu'on comprenne bien exactement ce qu'il se passe. Le problème, c'est qu'à partir de là, il va rentrer dans quelque chose de très prosaïque et il va commencer à remplir ses plans. Et il va les remplir de quoi ? D'explications psychologiques, qui sont assez lourdes et très insatisfaisantes. Et du coup, on va tomber dans quelque chose de très prosaïque et le film va virer. On était dans un film, une sorte de thriller fantastique qui jouait sur l'inquiétante étrangeté freudienne. Et là, d'un seul coup, on tombe dans un film de Home Invasion, c'est-à-dire un film de cambriolage, enfin d'attaque, d'assaut sur le foyer, en fait. Et le problème, c'est que ce film-là me paraît complètement raté. Complètement raté au sens où un bon film de Home Invasion, c'est un film qui est toujours un peu abstrait. Si on regarde Le Assaut de Carpenter, par exemple, c'est un film où, en fait, l'assaillant est une figure très abstraite qu'on ne comprend pas, qui est mal figurée et qui progressivement va se figurer tout simplement le mal. Et là, en fait, c'est très vite et très rapidement quelque chose de très prosaïque, très simple, très quotidien et très ordinaire. Et je trouve qu'on perd beaucoup, 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 beaucoup de ce qui faisait la force du cinéma de Kurosawa, et notamment qu'on voit au début du film.
Alors justement, Philippe Azoury, le cinéma de Kurosawa, est-ce qu'on le retrouve, selon vous, quand même, au moins dans cette première partie?
Oui, dans la première partie, tout à fait. Guillaume disait que c'était ce traitement réaliste avec lequel il semblait avoir quand même un problème. Ça participe quand même depuis toujours de l'économie très, très étrange du cinéma de Kurosawa. Économie d'abord de plan, c'est ce qui est si décevant dans le moment où le film passe de l'épouvante à l'action, parce que là il se met tout à coup à surdécouper, alors que c'est quelqu'un qui découpe très très peu, qui découpe au cordeau, qui préfère plutôt une sorte de chorégraphie à l'intérieur des plans, de les laisser respirer, de couper à un endroit très très précis, de saisir quelque chose.
Et puis des mouvements de caméra comme ça qui englobent.
Voilà, tout ça toujours avec un calme, une placidité qui est assez sidérante, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Chaim, sans doute bien mieux dans Shine. Et c'est vrai que Guillaume citait Tourneur, moi je pense même à Alan Dwan, qui est un cinéaste de série B américain des années 40, 50, 60, qui était vraiment, qui travaillait sur cette économie-là. D'ailleurs, il faut savoir que Kurosawa, c'est quelqu'un qui fait 3-4 films par an depuis une vingtaine d'années. C'est un ouvrier, enfin je veux dire, il s'est toujours vécu comme ça. Moi, j'ai beaucoup fréquenté moi, à Tokyo, c'est quelqu'un qui se vit vraiment comme un ouvrier à l'intérieur du cinéma japonais. Il n'a pas du tout, il n'incarne pas un statut d'ambassadeur du cinéma japonais. Et c'est même d'ailleurs étrange, parce que à sa façon, il scanne la société japonaise, il la scanne dans tous ses carcans, enfin, de la manière dont elle étouffe, cette société qui ne s'est plus révoltée depuis plus de 50 ans désormais, et qui finalement préfère laisser pénétrer la psychose, laisser grandir la psychose que de se révolter contre ce qui l'étouffe. Mais il le fait avec un style qui est très très peu japonais. Il faut pas. Là, il y a en même temps sort une reprise d'un film des années 80 de Shinji Somai cette semaine. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, il y a très peu de poésie chez Kurosawa. C'est quelqu'un qui travaille, qui peut être même très très terne. Pas là d'ailleurs. Dans la première heure de Cloud est parmi les plus belles en termes d'image. Il y a un soin de la photographie qui est rare, hein, chez lui. Enfin, il lui arrive de faire des choses qui sont un peu plus verdâtres, un peu plus grises, un peu plus dans une gamme, disons, de couleurs. Un peu tristouille. Là, c'est beaucoup plus, notamment dans les moments en pleine campagne, comme ça, qui sont assez dans le lac, comme ça, qui sont vraiment vraiment sidérants. Mais il y a cette façon, tout à coup, passer la première heure, de basculer dans un autre type d'écriture.
Prosaïque, vous êtes d'accord, comme disait Guillaume Erignac?
Ouais, prosaïque et surtout fragmenté, peu. Hystérisé, mais sans y croire, enfin, qui ne ressemble pas du tout, en fait, à la façon dont d'habitude il se confronte à la psychose. Si on voit Scheim, qui est le court-métrage qui est sorti la semaine dernière et qui est encore là, enfin, court-métrage, moyen-métrage, 45 minutes, qu'il avait fait pour une plateforme japonaise qui s'appelle Roasted, c'est un film où on ne sait jamais si le personnage a des hallucinations, ou si réellement ces gens qui se suicident sous ses yeux existent. On ne sait pas si c'est, enfin, pour parler un psychiatre.
C'est un professeur, hein, qui voit son élève se suicider.
Voilà, ouais. Mais qu'à partir de là, enfin, rentre dans une psychose où finalement, enfin, la schizophrénie devient contagieuse. Mais on ne sait jamais, pour parler comme par les psychiatres, si c'est une paraphrénie, c'est-à-dire, en fait, non, c'est tout ce qu'il voit est réel. Enfin, ça existe, ça le fait délirer, mais c'est réel. Ou si c'est une hallucination, un délire avec hallucination. Et il y a toujours cette ambivalence. Alors que là, dans Cloud, on voit très bien, au début, on a effectivement, Guillaume a vraiment raison, il laisse pénétrer la place vide qu'il laisse, il laisse rentrer l'angoisse d'abord du spectateur, nous, français, ici, voyons ça, l'angoisse, j'imagine, surtout, et qui doit être bien plus terrifiante, du spectateur japonais, qui voit exactement, au lieu de cette place vide, le lien d'effet, comme citer Jean-Louis Murat, un morceau qu'on aime, il y a très longtemps qu'on aime beaucoup, mais vraiment le lien des faits de la société japonaise, c'est-à-dire une société qui n'arrive plus à communiquer son angoisse, sa colère, ses peurs, ses révoltes, et qui se laisse finalement, qui est imbibé dans sa propre frustration. C'est devenu vraiment son sujet sur les 25 dernières années. Il lui arrivait de le faire avec beaucoup plus d'allant, effectivement, les amants sacrifiés. Tokyo Sonata, qui était magnifique dans les derniers, ou dans les premiers, avec Cure, qui était un film sublime.
Guillaume Aurignac, même impression que Philippe Azzurri, Chaim plus intéressant, en tout cas, sur le cinéma de Kurosawa.
Oui, très clairement. C'est même, pour moi, ça a été extrêmement rassurant de voir où on a été Kurosawa avec ce film-là. Je me suis dit qu'en fait, il maintenait quand même une très, très grande qualité de mise en scène et de sa démarche d'être une sorte d'Antonioni du film d'horreur et que très très réussi. Alors effectivement, c'est le fond de ces angoisses là, c'est une sorte de relations humaines qui sont terminées, qui ne communiquent plus très bien. Mais je trouve que la plus grande beauté du film dans Chime, c'est que le virus, la contamination, dont on ne sait pas, comme dit Philippe, si c'est vrai, réel ou fantasmé. Ce virus a toute une série d'échos très faibles à l'intérieur du film, et notamment par exemple avec l'épouse qui va se retrouver à mettre à la poubelle des sacs de canettes de soda usagées, et qui le fait de manière terrifiante en fait.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, elle est, c'est pas du tout fonctionnel. Elle en fait quasiment un usage libidinal de marteler ses canettes de soda. Et ce qui fait dire que, en fait, ce qui arrive au personnage principal est, de manière assez plus faible peut-être, mais va toucher tous les autres personnages de la société japonaise. Et c'est très très angoissant. Mmh.
Philippe Azzurri.
Sur les canettes. c'est un grand film sur le reste et le déchet, c'est sidérant, mais c'est aussi un des grands problèmes de la société japonaise. Non, c'est fou qu'il arrive à être un cinéaste de genre, qui se tient dans son genre, avec l'économie de moyens du genre, tout en étant finalement un sociologue et presque même un analyste, enfin vraiment, de la société japonaise. Il est moins bon dans l'action, quoi, visiblement. On sent qu'aujourd'hui, il a tellement scanné ses liens d'effet, ses espace vide, que dès qu'il faut finalement sortir trois pistolets, faire pampan, enfin ça l'intéresse plus du tout, il s'ennuie, il doit bâcler ça. Ça dure quand même 45 minutes, ce moment un peu relâché. Quoi.
Là, voilà, on est en train de parler de Cloud, la deuxième partie de Cloud.
Les 10 dernières minutes redeviennent bien. Et quand même avec des archaïsmes, le personnage féminin de Cloud n'est pas le plus... plus moderne qui soit, hein, genre la petite copine vénale qui en veut qu'à la carte de crédit, c'est bon, on est en 2025 quoi. Genre, on peut faire mieux.
Guillaume Aurignac, un dernier mot sur Cloud ou sur Chime?
Oui, alors sur Cloud, c'est vrai que mais en fait c'est un peu le problème du film, c'est qu'en fait pour de fournir une explication et appuyer un petit peu son discours, il va dessiner des personnages très caricaturaux, personnages secondaires, et notamment le personnage effectivement de la petite amie, qui est vraiment très très mal dessiné pour le coup.
Cloud de Kiyoshi Kurosawa en salle aujourd'hui, et Chime qui est encore disponible sans doute, court-métrage, en moyen-métrage on va dire.
Il y en a un troisième qui sort le 13 août.
Oui, il est très productif, voilà. La Voix du Serpent qui est un auto-remake en fait, c'est ça.
Et tourné en France avec Mathieu Amalric, Damien Bonnard, Vima Laponce.
Enfin, voilà,
on a très envie de le voir, moi j'ai pas encore vu.
En août prochain, Kiyoshi Kurosawa, je le signale également, était l'invité d'Antoine Guillot dans Plan Large, et donc vous pouvez écouter cet entretien en podcast.